Chapitre 9. Prisonnier.
Es-tu sûr que tu auras assez chaud?
Demanda une fois encore Yanni Rouprous. Selden coula vers Aine un regard de sympathie et le jeune homme se surprit à sourire.
Je ne sais pas,
répondit-il franchement.
Mais si j'ajoute encore une couche de vêtements, j'ai bien peur de tomber déshabillé d'entre les serres du dragon quand il me transportera.
La remarque la fit taire.
Ça ira très bien, mère,
assura-t-il.
Cela ne sera pas pire que de naviguer par gros temps.
Il se trouvait dans un endroit qu'on avait dégagé à la hâte, derrière la salle du conseil. Tintaglia avait demandé que dorénavant, dans toutes les villes, sous l'autorité des marchands, soit ménagé un espace libre assez vaste pour qu'un dragon puisse s'y poser à l'aise. Et les habitants devaient lui garantir un accueil chaleureux et un repas convenable.
Il avait fallu plusieurs heures de négociations pour déterminer en quoi consistait un repas convenable. La viande devait être vivante et au moins de la taille d'un veau bien gras âgé d'un an. Quand on lui dit qu'elle n'aurait sans doute que de la volaille, puisque Terrilleville ne disposait pas de pâture pour le bétail, elle avait boudé jusqu'à ce que quelqu'un lui promît de l'huile chaude et de l'aide pour lustrer ses écailles à chaque visite. La proposition avait paru la rassérénée. Des journées entières s'étaient passées à chicaner de la sorte, et Rain avait cru devenir fou. La dizaine de pigeons restants qui reliaient Terrilleville et Troisnousses avaient volé jusqu'à épuisement. Les missives envoyées et reçues étaient trop laconiques pour qu'on soit en mesure de comprendre les événements qui se déroulaient dans les deux villes. Rain avait été soulagé quand on l'avait informé, d'une seule ligne, que sa demi-sœur et son beau-père étaient rentrés à Troisnousses sains et saufs. Bendir avait quitté la cité dans les arbres pour localiser, en amont du fleuve, l'endroit indiqué par Tintaglia sur la petite carte qu'ils avaient envoyée. Il avait commencé à réfléchir aux moyens de draguer le fleuve ainsi qu'à prospecter la région pour y rechercher les traces d'une cité enfouie. Satisfaite de constater l'avancement de ses projets, Tintaglia avait finalement accepté de partir en quête de Malta. Rain fut surpris de voir le nombre de gens qui s'étaient rassemblés pour assister à son départ, probablement par pure curiosité plus que par réel intérêt pour sa mission. La vie ou la mort de Malta ne les affecterait guère.
« Tu es prêt ?»
demanda Tintaglia sur un ton irrité. Elle lui parlait mentalement, grâce à leurs liens, de façon qu'il puisse sentir son mécontentement. Il sépara résolument ses émotions de celles du dragon. Malheureusement, ne demeurait guère en lui que nervosité et effroi. Il s'avança vers le dragon.
« Je suis prêt. »«
Très bien, alors, »
répondit Tintaglia.
Elle parcourut du regard la foule des curieux venus leur dire au revoir.
« À mon retour, j'espère que vous aurez progressé, beaucoup progressé. »
Selden quitta brusquement sa mère et lança un petit sac de tissu dans les mains de Rain. On entendit un cliquettement à l'intérieur.
« Prenez ça, c'était à Malta. Ça pourra peut-être vous aider. »
L'air grave, Rain ouvrit la pochette, s'attendant à y trouver quelques menus bijoux. Mais il découvrit une poignée de pastilles de miel colorées. Il leva les yeux, perplexe. Selden haussa les épaules.
« Je suis allé hier à notre maison pour voir ce qui restait. Presque tout a été volé ou détruit. Alors j'ai cherché dans les endroits les plus improbables, »
dit-il goguenard, redevenant tout à coup un petit frère.
« Je savais où Malta cachait ses bonbons. »
Le sourire s'adoucit.
« Elle adore les pastilles de miel. Ça pourra vous revigorer si vous avez trop froid. Elle ne vous en voudra certainement pas de les avoir mangées. »
Voilà qui ressemblait tant à Malta. Une douceur thésaurisée en prévision de lendemains incertains. Rain fourra la pochette sur le dessus de son sac.
« Merci, »
dit-il gravement. Il tira sur sa tête un voile de laine qu'il enfonça dans le col de sa veste. Son visage serait protégé du froid, mais sa vision en serait limitée.
« Voilà qui est sage, »
fit remarquer Selden.
« Vous avez beaucoup changé, vous savez. Quand je vous ai vu la première fois, j'ai pensé que Malta ne ferait pas trop attention, mais vous avez beaucoup plus de bosses maintenant. » Le garçon porta machinalement une main à sa figure et fit courir les doigts sur ses sourcils.
« Et quand elle me verra, elle va avoir une attaque ?»
dit-il gaiement.
Le dragon se dressa sur ses membres postérieurs.
« Dépêchons !»
ordonna-t-il sèchement. Il s'adressa sur un ton plus doux à Seldon.
« Écarte-toi, petit ménestrel, et détourne les yeux. Je ne voudrais pas t'aveugler avec la poussière soulevée par mes ailes. »«
Je te remercie, Tintaglia la Grande. Quoiqu'être aveugle ne serait pas une grande perte, si l'image de ta majesté prenant son essor, étincelante d'argent et de bleu, devait être ma dernière vision, ce souvenir pourrait me soutenir jusqu'à mon dernier jour. »
Flatteur.
Le dragon cependant ne dissimula pas son plaisir. Quand Seldon se fut écarté, Tintaglia saisit Rein à la poitrine et le souleva du sol comme s'il n'était qu'une poupée aux jambes pendantes. Elle se secoua et se tassa sur ses puissantes pattes postérieures. Une fois, deux fois, elle battit des ailes afin de calculer son élan.
Rein voulut crier un au revoir, mais il ne put trouver assez de souffle.
Elle bondit avec une brusquerie qui fit basculer la tête de Rein en arrière. Les adieux furent perdus dans la vibration assourdissante et continue des ailes. Il ferma les yeux à cause du vent froid, puis se força à les rouvrir. Il aperçut alors un tapis chatoyant de bleu et de gris, traversé de lentes ondulations. La mer. Très très loin au-dessous de lui. Rien que de l'eau profonde, glaciale. Il déglutit, saisi d'une peur croissante.
« Eh bien, où voulais-tu aller ?»«
Où je veux aller ? Mais là où est Malta, bien sûr. »«
Je te l'ai déjà dit, je peux sentir qu'elle est vivante, mais ça ne veut pas dire que je sais où elle est. »
La consternation l'engloutit. Le dragon eut soudain pitié de lui.
« Vois ce que tu peux faire, »
suggéra-t-il. Rein partagea de nouveau la conscience que Tintaglia avait de Malta. Il ferma les yeux, se laissa glisser dans ce sens qui n'était ni l'ouïe, ni la vue, ni l'odorat, mais l'ombre surnaturelle des trois. Il se surprit à ouvrir la bouche et à respirer profondément, comme s'il pouvait percevoir son odeur dans l'air froid. Une part de lui, il en était sûr, flotta vers elle à sa rencontre. Ils plongèrent dans une tiède et somnolente lassitude. Comme lors de son expérience avec la boîte à rêves, il entra dans les perceptions de Malta. Un lent balancement. Il respira profondément avec elle, reconnut l'odeur caractéristique d'un navire. Il relâcha la conscience qu'il avait de son propre corps et se tendit plus hardiment vers elle. Il sentit la chaleur des couvertures qui l'enveloppaient. Il adopta le rythme profond de sa respiration. Elle dormait. La joue au creux de la main. Il devint cette main qui berçait la douceur tiède de sa joue. Il la caressa. Elle sourit dans son sommeil.
« Rein ?»
dit-elle sans vraiment reconnaître sa présence. « Malta, mon amour » appela-t-il doucement. « Où es-tu ?»«
Au lit »
soupira-t-elle d'une voix pleine d'un tendre intérêt. « Où ?» insista-t-il tout en regrettant de ne pas répondre à cette invite.
« Sur un navire chalcédien. »«
Quelle est votre destination ?» demanda-t-il désespérément. Il sentait faiblir le contact tandis que ses questions irritantes se heurtaient aux rêves de Malta. Il s'accrocha, mais elle cherchait à se réveiller, troublée par son insistance.
« Où »
sentait-il.
« Où ?»«
En route vers Jamelia. »
Malta se retrouva assise toute droite dans son lit.
« En route vers Jamelia. »
répéta-t-elle. Mais elle ne put se rappeler ce qui avait inspiré ces mots. Elle avait l'impression désespérante de s'être réveillée au milieu d'un rêve très intéressant, sans pouvoir s'en remémorer la moindre bribe. Elle en fut presque soulagée, du reste. Dans la journée, elle parvenait à maîtriser ses pensées. La nuit lui apportait des rêves de Rein, douloureusement doux.
Mieux valait se réveiller sans se souvenir de rien qu'inonder de larmes. Elle porta les mains à son visage. Elle sentit un étrange picotement sur une joue. Elle s'étira, puis reconnut qu'elle ne pourrait plus se rendormir. Elle rejeta la courte pointe et se leva en bâillant. Elle était presque habituée au luxe opulent de la chambre à présent, ce qui n'amoindrissait nullement son plaisir. Le capitaine lui avait attribué 2 matelots, l'avait autorisé à fouiller dans la cale et à y prendre ce qui pourrait améliorer le confort du gouverneur. Elle avait renoncé à toute modération. Un moelleux tapis de laine sur le plancher et des tentures d'une riche étoffe brochée réchauffaient la pièce. Un candélabre avait remplacé la lanterne fuligineuse. Un amoncellement de couvertures et de fourrures constituait sa couche. Le lit du gouverneur était garni de peaux d'ours et de moutons. Un narguilé raffiné était posé à son chevet et un rideau de damas le protégeait des courants d'air. De derrière le rideau filtrait par intermittence son ronflement.
Bien.
Elle avait le temps de s'habiller avant qu'il ne se réveille. Elle traversa la chambre sans faire de bruit, ouvrit un grand coffre et fouilla dans des tas de vêtements. Elle glissa les doigts entre des étoffes de toutes nuances et textures. Elle choisit une robe d'un tissu chaud, doux et bleu, la tira du coffre et la tint contre elle. La robe était trop large, mais elle ferait l'affaire. Malta jeta un coup d'œil inquiet vers les rideaux du lit, puis passa la robe bleue par-dessus sa tête. Elle laissa tomber sa chemise de nuit, puis enfila très vite les longues manches. L'étoffe exhalait un faible parfum, l'odeur de sa propriétaire. Inutile de s'interroger sur la façon dont ce coffre de superbes vêtements était tombé aux mains des Chalcédiens. Elle ne ressusciterait pas sa légitime propriétaire en s'habillant de guenilles, ce qui en outre aurait pour effet de rendre sa situation plus précaire. Il y avait un miroir dans le couvercle de la malle, mais Malta évita de s'y regarder. La première fois qu'elle l'avait ouverte, et avec quelle allégresse, elle n'avait vu que son propre reflet. La cicatrice était bien pire qu'elle ne l'avait imaginée. Flagrant, un double bourrelet de chair blême et plissée qui s'étendait presque jusqu'au nez et disparaissait dans les cheveux. Incrédule, elle l'avait effleurée puis avait battu en retraite, horrifiée. Le gouverneur avait ri.
« Vous voyez ? »
avait-il raillé.
« Je vous l'avais dit. Votre heure de beauté est révolue, Malta. Vous feriez mieux d'apprendre à vous rendre utile et complaisante. C'est tout ce qu'il vous reste à présent. Vous vous abuseriez en conservant le moindre orgueil. »
Elle ne put répondre à ces odieuses paroles. Elle n'avait plus de voix, le regard enfermé dans sa propre image. Durant un instant, incapable de bouger ni de penser, elle s'était absorbée dans son reflet. Le gouverneur avait rompu l'envoûtement en la poussant légèrement du pied.
« Levez-vous et activez-vous un peu. Je dois dîner avec le capitaine ce soir, et vous ne m'avez pas sorti ma tenue. Et au nom de ça, cachez-moi cette cicatrice. Il est assez humiliant pour moi que tout l'équipage connaisse votre disgrâce sans qu'en plus vous l'exhibiez. »
Elle avait obéi dans un silence hébété. Cette nuit-là, elle s'était assise par terre près de la chaise de Cosgo, comme un chien. Elle se rappelait Keki, servile, mais alerte. À l'exception de quelques mots de Jamélien, la conversation à table lui échappa complètement. De temps à autre, le gouverneur lui donnait quelques bouchées. Elle finit par comprendre qu'il la gratifiait des plats auxquels il avait goûté et qui lui déplaisaient. Elle restait muette, affichant un petit sourire guindé, même quand il s'essuya négligemment les doigts sur sa robe. À un moment, ils avaient parlé d'elle. Le gouverneur avait dit quelque chose, le capitaine avait répondu, soulevant un éclat de rire général. Cosgo lui avait donné un léger coup de pied désobligeant, car elle s'était assise trop près de lui à son gré. Elle fut surprise d'en être si cruellement blessée. Elle plaqua ce même petit sourire sur sa figure en regardant dans le vide. Elle se gorgeait de mets riches et de vins fins pillés sur d'autres navires. Après le dîner, ils avaient partagé les rares herbes à plaisir conservées à l'abri dans la boîte en lac du capitaine Deyari. Plus tard, le gouverneur lui avait dit sur un ton dédaigneux que ce bateau n'était pas un vaisseau pirate, mais un de ses navires de patrouille, et que le butin avait été confisqué aux contrebandiers et aux forbans. Il avait ajouté avec mépris
qu'un de ses nobles favoris avait contribué pour une grosse part à l'armement du navire et avait un intérêt dans ses bénéfices.
Elle était parvenue à garder le masque toute la soirée. Consciencieusement, elle avait suivi le gouverneur jusqu'à leur cabine, l'avait aidé à se déshabiller pour la nuit et résisté à ses avances indolentes, tout cela en conservant son sang-froid. Quand elle fut sûre qu'il était endormi, alors seulement vinrent les larmes. Complaisante et utile, ne serait-elle vraiment plus que cela désormais? Avec une consternation insidieuse, elle se rendit compte que c'était la description de sa mère. Complaisante et utile à son mari chalcédien. Que penserait son père s'il la voyait aujourd'hui? Serait-il horrifié ou estimerait-il qu'elle avait enfin consenti à accepter sa condition de femme? Elle souffrait de se poser ces questions sur un être qu'elle aimait. Elle s'était toujours crue la préférée de ses enfants. Mais comment l'aimait-il? Comme une jeune fille indépendante, une fille de marchand? Ou approuverait-il davantage le rôle qu'elle jouait à présent? La même pensée revint la hanter alors qu'elle serrait les cordons de son corsage et bouclait la ceinture afin de ne pas piétiner l'ourlet. Elle torsada ses cheveux et les épingla sur la nuque. Puis elle dissimula sa cicatrice sous une écharpe. Quand elle eut terminé, elle se regarda dans le miroir. La vie à bord ne convenait pas à son teint. Elle était beaucoup trop pâle, ses lèvres étaient gercées par le vent. « J'ai l'air d'une servante éreintée. » Elle referma résolument le couvercle du coffre. C'était son maintien, non son apparence, qui lui avait gagné la déférence de l'équipage et du capitaine. Si elle lâchait prise maintenant, elle perdrait du même coup la capacité de traiter avec eux. Elle doutait que Cosgo soit en mesure de prolonger cette comédie sans elle. Seule l'obséquiosité soutenue de Malta à son égard lui permettait d'agir en gouverneur. Elle était écœurée de devoir consacrer une grande part de son énergie à raffermir en lui la conviction de sa supériorité. Pire, plus elle le flattait, plus il la trouvait séduisante. Mais elle était plus forte que lui. Elle avait facilement repoussé ses diverses avances, écartant ses mains tripoteuses et lui rappelant qu'elle n'était pas digne de ses attentions. Elle chaussa des mules de cuir souple. Elle était prête. Elle s'avança vers le lit du gouverneur, se racla bruyamment la gorge et tira le rideau. Elle n'avait aucune envie de le surprendre occupé à quelque obscénité.
« Seigneur, j'hésite à troubler votre repos, mais, avec votre permission, je vais aller chercher votre petit déjeuner. »
Il ouvrit un œil.
« Faites. Veillez à ce que ce soit bien chaud. « Pas tiède comme hier. »«
J'y veillerai, Seigneur, »
assura-t-elle humblement. Elle ne pouvait lui rappeler qu'il était resté couché à fumer longtemps après qu'elle lui avait apporté son plateau la veille. Ce n'était jamais sa faute à lui. Elle se couvrit d'une cape et quitta sans bruit la pièce.
C'étaient les seuls moments de répit qu'elle s'accordait. Hors de vue du gouverneur, mue par un but précis, elle pouvait jouir d'une certaine liberté sans être interpellée par qui que ce soit. Quand elle rencontrait des matelots, ils regardaient avec insistance son front ceint de l'écharpe et faisaient des commentaires derrière son dos, mais la laissaient passer. Le fourneau se trouvait dans le rouf situé au milieu du navire. La porte coulissante était ouverte. Le coq, un homme blême et sinistre, la salua d'un hochement de tête. Il disposa un plateau avec deux bols et des couverts, prit une louche et remua la bouillie épaisse qui constituait la ration matinale de tous. Même les plaintes d'un gouverneur étaient impuissantes à changer certaines choses. Un cri soudain de la vigie attira le coq à la porte. Peu après, une clameur sauvage s'éleva sur le pont. La paix relative du navire qui taillait de la route fut rompue par une cavalcade et des hurlements. Malta n'avait pas besoin de son chalcédien limité pour comprendre que force jurons se mêlait aux ordres. À la porte, le coq ajouta quelques phrases bien choisies de son cru, lança sa louche et donna à Malta une injonction d'un ton sévère. Puis, il s'en alla en refermant brutalement la porte. Elle l'entrebâilla aussitôt pour surveiller ce qui se passait. Le pont grouillait d'activité. Une tempête s'annonçait-elle? Elle regardait fascinée, les manœuvres courantes qu'on larguait, les voiles qu'on déferlait, les cordages qu'on frappait. La toile fleurissait sur les mâts déjà bien sous voile.
Elle sentit le pont s'incliner sous ses pieds alors que le navire prenait de la vitesse.
Les vigies dans la mâture criaient leur rapport.
Malta risqua deux pas hors du rouf et se dévissa le cou. Elle entrevit une main tendue et ses yeux suivirent la direction indiquée.
Des voiles. Un navire qui torchait.
Un deuxième cri au-dessus la fit replonger dans le rouf d'où elle observa par la petite fenêtre.
Un autre navire, vent devant, était aussi en train de les rejoindre.
Les deux vaisseaux battaient des pavillons faits de morceaux disparates où un corbeau déployait ses ailes.
Elle réfléchit fiévreusement. Le navire chalcédien les fuyait.
Cela signifiait-il que les deux autres bâtiments étaient de Terrilleville?
Où étaient-ce des pirates?
Les pirates se pourchassaient-ils entre eux? Elle se demanda ce qu'il fallait espérer. Que le navire chalcédien les distance ou qu'il soit capturé?
S'il était capturé et que les poursuivants étaient des pirates, qu'adviendrait-il du gouverneur et d'elle?
Un plan se forma rapidement dans sa tête.
Elle attendit le moment opportun, puis sortit en trombe du rouf, détala pour s'engouffrer dans l'écoutille comme une souris dans son trou.
Le panneau retomba derrière elle et elle fut plongée dans l'obscurité.
Elle traversa le navire à toute allure et trouva les logements des matelots déserts. À la pâle clarté d'une lanterne, elle chipa un lot de vêtements avant de se précipiter vers la cabine du gouverneur. Quand elle fit irruption, il ouvrit un œil languide et la regarda avec irritation.
« Quelle inconvenance ! » dit-il. « Où est mon déjeuner ?»
Même à ce moment décisif, elle devait continuer à jouer son rôle.
« Je vous demande pardon, Seigneur. Nous sommes pris en chasse par deux vaisseaux. S'ils nous rattrapent, il y aura bataille. S'il y a bataille, je crains que nous soyons vaincus. J'ai bien peur qu'il ne s'agisse des pirates, des îles des pirates, qui ont peu de respect ou d'affection pour le gouverneur de Jamelia. Et j'ai donc emprunté des vêtements pour que vous vous déguisiez. En simple matelot, vous pouvez passer inaperçu, et moi de même. »
Tout en parlant, elle triait fébrilement les habits. Elle choisit une chemise de grosse toile pour elle, des culottes et une casquette pour cacher son front. Un tricot épais, beaucoup trop grand, pouvait la faire passer pour un mousse. Pour le gouverneur, elle avait pris les habits les plus propres. Elle s'avança vers le lit, les bras chargés. Il fit la grimace et agrippa le bord de sa couverture.
« Levez-vous, Excellence, je vais vous aider à vous habiller, »
déclara-t-elle. Elle avait envie d'aboyer comme sur un gamin récalcitrant, mais, elle le savait, il ne ferait que se buter davantage.
« Non, débarrassez ces nippes dégoûtantes et sortez-moi une tenue convenable. Puisque je dois me lever et m'habiller avant d'avoir pris mon petit déjeuner, je me vêtirai comme il sied. Vous faites une grande injustice aux marins chalcédiens en supposant qu'ils vont se laisser battre et capturer aussi facilement. Je n'ai pas besoin de me cacher sous un déguisement de rustre. »
Il s'assit dans son lit, croisa résolument les bras.
« Apportez-moi des habits décents et des chaussures. Je vais sortir sur le pont et regarder mon vaisseau de patrouille disperser ces vulgaires pirates. »
Malta soupira, vaincue.
Eh bien, s'il ne voulait pas se cacher, alors elle ferait connaître qu'il valait son pesant d'or. Les pirates se montreraient peut-être plus magnanimes avec de précieux prisonniers.
Elle s'inclina bas.
« Vous avez raison, bien sûr, Excellence. Pardonnez la sottise d'une simple femme, je vous en prie. »
Elle jeta le déguisement de matelot dans la coursive. Puis, de retour dans la chambre, elle choisit les tenues les plus magnifiques qu'elle put trouver et les apporta à Cosgo.
Un choc soudain l'envoya heurter contre le lit. Elle retint son souffle, tendit l'oreille.
Les bruits sur le pont avaient changé de nature. Piétinements, cris de colère et hurlements sauvages. Les pirates les avaient-ils éprônés? Était-il en train d'aborder? Elle rattrapa son souffle.
« Seigneur, je crois qu'il serait sage de se dépêcher. »«
Très bien. »
Avec un soupir de martyr, il repoussa les couvertures. Il écarta les bras.
« Vous pouvez me vêtir. »
Tintaglia le secoua.
Rain ouvrit les yeux et vit le brasillement de l'eau sombre loin en dessous. Il poussa un cri de terreur et se cramponna farouchement au cerf qui le tenait.
« Voilà qui est mieux !»
déclara le dragon, impitoyable.
« Je croyais que tu étais mort. J'avais oublié que les humains ne sont pas aussi bien attachés à leur corps que les dragons. Quand vous vous hasardez trop loin, vous risquez de ne plus pouvoir revenir. »
Le cœur chaviré, Rain s'accrocha aux griffes.
Il se sentait étourdi, tout petit, il avait froid, mais le vol n'en était certainement pas la cause. Il se douta qu'il avait perdu conscience.
Il essaya de retrouver la dernière chose qu'il avait gardée en mémoire. En vain. Il regarda en bas et saisit soudain le sens de ce qu'il voyait.
Ces galères-là, en bas, ce sont des Chalcédiens? Que font-elles? Où vont-elles?
Il en compta sept qui se dirigeaient vers le sud en formation triangulaire comme des oies.
Comment veux-tu que je le sache? Qu'est-ce que ça peut me faire?
Tintaglia jeta un coup d'œil machinal.
J'en ai aperçu beaucoup en route vers le sud. Je les ai chassés de Terrilleville, conformément à notre accord. Mais ils sont trop nombreux pour un dragon tout seul.
Elle parut vexée d'être forcée de l'admettre. Elle changea de sujet.
Je croyais que tu ne te préoccupais que de Malta.
En effet, fit-il faiblement. Mais tous ces vaisseaux... Il laissa sa phrase en suspens. Il saisit ce qu'il aurait dû comprendre depuis longtemps. La tentative chalcédienne n'était pas seulement dirigée contre Terrilleville et le désert des pluies. Chalcède était de mèche avec les nouveaux marchands contre le gouverneur. Que les Chalcédiens se soient retournés contre leurs complices signifiait seulement qu'ils traitaient leurs alliés comme ils l'avaient toujours fait. Maintenant, ils faisaient mouvement en force vers Jamelia. Terrilleville n'était qu'une étape le long de la route, qu'il fallait paralyser et occuper de façon à n'avoir pas d'ennemis dans le dos pendant qu'on pourchassait un plus gros gibier. Il baissa les yeux vers les navires.
« Beaucoup comme cela, » avait dit Tintaglia.
La puissance maritime de Jamelia avait décliné au cours de la dernière décennie. Pourrait-elle faire la guerre contre Chalcède, sans parler même de gagner? Terrilleville pourrait-elle supporter l'interruption du commerce que cette guerre entraînerait? La tête lui tournait de songer à toutes les implications qu'il entrevoyait.
Tintaglia était exaspéré. « Eh bien, tu as trouvé ta compagne? Tu pourrais dire où elle est ?»
Il déglutit.
« À peu près. »
Il sentit l'impatience du dragon.
« Un moment, »
supplia-t-il. Il aspira à grande goulée, espérant que l'air froid le revigorerait tout en essayant de tirer une certaine logique des bribes de son rêve.
Elle était sur un navire à forte calaison d'après le mouvement, pas une galère. Pourtant, elle a dit que c'était un bateau chalcédien.
Il fronça les sourcils.
Tu n'as pas senti ça aussi?
Je n'ai pas fait très attention,
répondit-elle négligemment.
Alors, un navire chalcédien, un grand, il y en a beaucoup comme ça. Où?
À destination de Jamelia.
Voilà qui nous avance bien.
Vers le sud, vol vers le sud, au-dessus de la passe intérieure.
Et quand on survolera le navire où elle se trouve, tu le sauras tout simplement?
Poursuivit le dragon sceptique.
Et alors quoi?
Rain considéra l'eau entre ses orteils.
Alors, d'une façon ou d'une autre, tu m'aideras à la sauver et à la ramener avec nous.
Tintaglia maugréa mécontente.
Mission impossible, insensée. Nous perdons notre temps, Rain. On devrait rentrer maintenant.
Non, pas sans Malta,
rétorqua-t-il catégorique. Il la sentit bouillir de colère et ajouta.
Ce que tu me demandes est tout aussi impossible et insensé. Tu exiges que je me traîne à travers les marées du désert des pluies, que je localise une cité engloutie, ça seul sait depuis combien de temps, ensuite je devrais d'une façon ou d'une autre sauver les cocons des dragons profondément enfouis.
Es-tu en train de dire que tu ne peux pas le faire?
Interrogea le dragon indigné. Rain eut un bref éclat de rire.
Une quête impossible après l'autre. Toi d'abord.
Je tiendrai parole,
affirma Tintaglia sur un ton maussade. Il regretta de l'avoir offensé. Ce n'était pas le moyen de l'encourager à faire de son mieux. « Je sais que tu tiendras parole, » assura-t-il en reprenant haleine. « Nos âmes ont été en contact, Tintaglia. Tu as le cœur trop noble pour revenir sur ta promesse. »
Elle ne répondit pas, mais il sentit s'apaiser sa colère. Il ignorait pourquoi elle goûtait tant de plaisir aux flatteries, mais il ne lui en coûtait guère de la satisfaire. Elle continua son vol en battant régulièrement de ses grandes ailes. Il prit conscience du puissant mouvement de son cœur de dragon. Là où elle le tenait contre elle, il avait chaud. Il fut soulevé par un élan de confiance en eux deux. Il trouverait Malta. Il la ramènerait saine et sauve. Il serra les griffes de ses mains et méprisa la douleur que lui causaient ses jambes pendantes.
Malta ajusta la veste de Kosgo d'une main tremblante. Un cri de souffrance déchirant retentit sur le pont. Elle serra les dents en tâchant de se convaincre que les Chalcédiens l'emportaient. Elle venait de découvrir qu'elle préférait le danger connu à l'inconnu. Doucement, elle redressa le col du gouverneur. «
Voilà, le gouverneur de Jamelia, l'héritier du trône de Perle, le gouverneur Magnadon Kosgo, était présentable. » Il se regarda dans le petit miroir qu'elle lui tendait. Nullement impressionné par les bruits étouffés de la bataille, il lissa sa fine moustache. Quelque chose tomba lourdement sur le pont au-dessus d'eux.
« Je vais monter maintenant, »
annonça-t-il.
« Je ne crois pas que ce soit sage. Ils se battent là-haut, vous n'entendez pas ?»
Elle avait parlé trop vite, et il crispa les mâchoires d'un air buté.
« Je ne suis pas un lâche. »
« Non, seulement un imbécile. »
« Seigneur, vous ne devez pas prendre de risques, » supplia-t-elle. « Je sais que vous ne craignez point pour vous-même, mais songez à Jamelia, endeuillé et abandonné comme un navire sans timonier s'il vous arrivait malheur. »
« Vous êtes une sotte, »
dit Kosgo sur un ton plein d'indulgence.
« Qui oserait attaquer physiquement le gouverneur de Jamelia? Ces chiens de pirates peuvent contester mon autorité, mais seulement à distance respectueuse. Quand ils me regarderont en face, ils se feront tout petits et trembleront de honte. »
Il le croyait vraiment. Malta le dévisagea, bouche bée, dans un silence ahuri, tandis qu'il se dirigeait vers la porte. Il s'arrêta, attendit qu'elle ouvre. Peut-être était-ce la solution? Si elle ne lui ouvrait pas, peut-être resterait-il simplement dans la cabine? Après un long moment d'immobilité, il lui jeta un regard noir et déclara
« Je dois tout faire moi-même, à ce qu'il paraît. »
Et il ouvrit. Elle se traîna sur ses talons dans une sorte de fascination angoissée. Au pied de la descente des cabines, elle songea que le panneau pouvait le sauver. Il était lourd à soulever et à faire glisser. Peut-être serait-il rebuté par l'effort. Mais il avait gravi la moitié des degrés quand l'écoutille s'écarta et un carré de lumière tomba sur eux. Un homme torse nu leur jeta un regard menaçant. Le corbeau aux ailes déployées tatouées sur sa poitrine était éclaboussé d'un sang frais qui n'était pas le sien, selon toute apparence. Des tatouages d'esclaves s'étendaient sur sa figure jusqu'en bas du cou. Il tenait un poignard dégoûtant de sang. D'abord éberlué, il poussa bientôt un cri de plaisir.
« Hey, Cap! Venez voir quels jolis oiseaux j'ai dénichés dans leur cage !»
S'adressant au gouverneur et à Malta, il aboya
« Montez, et plus vite que ça !»
Alors que le gouverneur émargeait de l'écoutille, le pirate le saisit par le bras et le tira sur le pont.
Kosgo jura et frappa l'homme qui le repoussa négligemment et l'envoya par terre.
Il empoigna Malta qui serra les dents et s'interdit de crier. Elle lui décocha un regard mauvais alors qu'il la soulevait d'un bras pour la lancer sur le pont. Elle atterrit sur ses pieds à côté du gouverneur. Sans quitter des yeux le pirate qui jubilait, elle se baissa et aida Kosgo à se relever. Autour d'eux, c'était la cohue. Un groupe de Chalcédiens désarmés était parqué à un bout, gardé par trois pirates goguenards. Au pied d'un mât, Malta aperçut un homme, les jambes écartées, immobile. D'autres pirates se laissaient tomber dans la cale pour inspecter la cargaison dont ils s'étaient emparés. Malta entendit des éclaboussements et elle se retourna juste à temps pour voir qu'on jetait un corps par-dessus bord. C'était sans doute l'officier en second.
Vous mourrez pour ça! Vous mourrez !»
Le gouverneur étouffait de fureur. Deux taches rouges ressortaient sur ses joues pâles. Il était tout ébouriffé. Il fixait sur eux des yeux menaçants.
« Où est le capitaine? J'exige de voir le capitaine !»«
Je vous en prie, taisez-vous !»
dit Malta tout bas d'une voix suppliante. Mais il n'écoutait pas. Il la repoussa comme si elle avait été responsable de sa chute.
« Silence !»
éructa-t-il.
« Petite sotte, vous n'allez pas prétendre me dicter ce que je dois faire !»
Ses yeux étincelaient de colère, mais sa voix suraiguë le trahit. Il mit les poings sur les hanches.
« J'exige qu'on m'amène le capitaine !»«
Qu'est-ce que tu as trouvé là, biscotte ?»
Un homme râblé et musclé s'adressait hilar à leur ravisseur. Des boucles rousses s'échappaient de son mouchoir de tête marqué d'un corbeau. Il brandit une épée dans sa main gauche. De la pointe, il souleva le bord brodé de la veste du gouverneur.
« Que voilà un beau plumage! Un riche marchand ou un sangbleu, je dirais !»
Cosgo gonfla la poitrine, outré.
« Je suis le gouverneur Magnadon Cosgo, le souverain de Jamelia et l'héritier du trône de Perle, et j'exige de parler au capitaine !»
Les espoirs de Malta s'effondrèrent. Un sourire fendit la figure tavelée de taches de rousseur.
« Tu parles au capitaine, capitaine rouge !»
Il s'inclina dans un profond salut et ajouta en ronronnant
« À votre service, grand gouverneur, pour sûr !»
L'homme qui les avait découverts rit si fort qu'il s'en étouffa. Cosgo s'empourpra de fureur.
« Je veux dire le vrai capitaine, le capitaine Deyari !»
Le sourire du capitaine rouge s'élargit encore. Il risqua un clin d'œil à l'adresse de Malta.
« Je suis absolument navré, gouverneur Magnadon Cosgo. Le capitaine Deyari, pour l'heure, est en train d'amuser les poissons. »
Dans un chuchotement théâtral, il expliqua à Malta
« C'est ce qui arrive à ceux qui ne savent pas baisser l'épée. » « Ou à ceux qui me mentent !»
Il attendit. Derrière lui, deux matelots saisirent l'homme tombé derrière le mât et le tirèrent. Malta regarda, fasciné et horrifié. Le corps inerte laissait une traînée de sang. Ses yeux morts la fixaient. Ils le soulevèrent alors, sa bouche s'ouvrit dans un sourire sans joie, et il tomba dans l'eau comme un sac. Elle sentit le souffle lui manquer.
« Je vous le dis, je suis le gouverneur Magnadon Cosgo, souverain de Jamelia !»
Le capitaine aux taches de rousseur écarta les bras, épée toujours en main, et sourit.
« Et ici sont rassemblés tous vos loyaux sujets et grands nobles, pour vous servir au cours de ce remarquable voyage depuis... où ? Calcède ? Le gouverneur fait route de Calcède à Jamelia ?
Les narines de Cosgo étaient pincées et toutes blanches sous l'outrage.
Bien que ce ne soit pas l'affaire d'un coupe-jarret, d'un voleur ou d'un assassin, sachez que je reviens de Terrilleville. J'y étais pour régler un différend entre premier et nouveau marchand, mais j'ai été enlevé par les marchands de Terrilleville et emmené au désert des pluies. Les marchands des pluies, des gens si horriblement défigurés qu'ils doivent être constamment voilés, m'ont retenu prisonnier dans une ville souterraine. Je me suis échappé pendant un tremblement de terre, et j'ai descendu le fleuve du désert des pluies jusqu'à ce que je sois secouru par... »
Tandis que le gouverneur parlait, le capitaine regardait ses hommes l'un après l'autre, tout en faisant des grimaces qui mimaient son étonnement et son émerveillement au récit de Cosgo. Les pirates pouffaient aux anges. Le capitaine se pencha soudain pour appliquer la pointe de sa rapière sur la gorge de Cosgo. Les yeux exorbités, celui-ci interrompit son flot de paroles. Il devint blême.
« Arrête, s'il te plaît, arrête-toi là !»
supplia le capitaine tout réjoui.
« On a de la besogne à faire ici, nous autres. Arrête ta comédie et parle franc. Plus vite tu nous diras ton nom, plus tôt ta famille pourra te racheter. T'as envie de rentrer chez toi, pas vrai? Ou alors ça te dit d'être une bonne recrue pour mon équipage?
Kosgo lança des regards égarés sur le cercle de ses ravisseurs. Quand il croisa les yeux de Malta, il était au bord des larmes.
« Arrêtez !» dit-elle à voix basse. « Laissez-le tranquille. Il est vraiment le gouverneur Magnadon Kosgo. Il vous sera bien plus précieux comme otage s'il n'est pas égorgé. »
La pointe de l'épée quitta la gorge du gouverneur pour s'appliquer entre les seins de Malta. Elle baissa les yeux, paralysée. Du sang maculait la lame. Le capitaine rouge fit glisser la pointe de sa rapière sous les lacets du corsage.
« Et toi, bien sûr, tu es la ravissante et érudite compagne de cœur, et tu retournes à jamais l'IA. »
Il promena lentement le regard sur elle.
La peur de Malta se dissipa devant le sarcasme. Elle le toisa d'un air furieux et cracha en détachant chaque mot.
« Ne soyez pas stupide !»
Elle releva le menton.
« Je suis Malta Vestrit, la fille d'un marchand de Terrilville. Aussi folle que paraît son histoire, il est vraiment le gouverneur Kosgo. »
Elle reprit son souffle.
« Tuez-le, et vous serez réputé le roi des imbéciles pour avoir renoncé à la rançon d'un gouverneur. »
Le pirate rugit de plaisir et l'équipage lui fit écho.
Malta sentit ses joues s'empourprer, mais elle n'osa pas bouger, l'épée toujours pressée sur sa poitrine.
Derrière elle, le gouverneur chuchota, furieux.
« Ne le fâchez pas, donzelle !»«
Capitaine Rouge, le navire est en main !»
annonça un matelot, presque un gamin encore, qui portait un gilet brodé beaucoup trop grand pour lui, que Malta se rappela avoir vu sur le capitaine des Yari. Les vêtements d'un mort constituaient la part de butin du mousse.
« Très bien, Oti. Combien de prisonniers ?»«
À part ces deux-là, 5 seulement. »«
L'état du navire ?»«
Propre à naviguer, commandant. Et les cales pleines, et c'est de la bonne marchandise. »«
Vraiment merveilleux. Je crois qu'une aussi belle prise va nous ramener tout droit au port, hein ? On a bourlingué un peu cette fois-ci, et partage va nous sembler bon, pas vrai ?»«
Très bon, commandant !»
répondit le gamin avec enthousiasme. Une rumeur d'approbation s'éleva du reste de l'équipage. Le capitaine regarda à la ronde.
« Enferme les 5 en bas. Prends les noms, vois s'ils ont des familles qui peuvent payer la rançon. Et ils se sont bien battus. S'il y en a un qui exprime le désir de se faire pirate, amène-le-moi. Carn, amarine le bâtiment, tu le ramènes au pays pour nous. »
Carn, l'homme qui avait déniché Malta et le gouverneur, eut un sourire hilar.
« Ça, pour sûr, commandant. Allez, vous deux, direct en bas d'où vous venez. »
Le capitaine secoua la tête.
« Non, pas ces deux-là. Je les prends avec moi sur le bouffon. Même s'il n'est pas le gouverneur de Jamelia, je parie qu'il va nous rapporter une jolie rançon. »
D'un geste adroit, il trancha les cordons du corselet de Malta. Elle saisit les pans qu'elle serra contre elle, octant d'indignation. Le capitaine se contenta de sourire.
« Quant à la dame, elle dînera avec le capitaine, imbécile. Et elle me racontera des histoires. Amène-la-moi. »